Ça m'a apporté, en tout cas, une clé pour la compréhension de la violence, de tous les comportements non respectueux et de la violence. En communication violente, on comprend que tout comportement est une tentative pour prendre soin de ses besoins, prendre soin de la vie en soi.
Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 88 avec Catherine Schmider, cofondatrice de l'association Déclic. Et dans cet épisode, Catherine nous a fait plonger dans la communication non violente en nous décrivant les actions de l'association et en nous parlant d'écoute empathique. Avez-vous déjà entendu parler de médiation et de cercle restauratif pour la gestion des conflits? Connaissez-vous les obstacles à l'écoute empathique? Je serais curieuse de savoir où vous en êtes sur le chemin de la CNV, donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Je laisse place à ma conversation avec Catherine. Bonjour Catherine, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Donc j'ai eu la chance de participer à votre conférence à Besançon il y a quelques semaines pour le congrès en éducation, ça devait être au mois d'octobre, et j'ai vraiment adoré revivre ce moment de CNV parce que même si nous étions très nombreux dans la salle, vous avez réussi en fait à nous le faire vivre en binôme, par deux, par trois, et c'était vraiment un chouette moment, ça m'a reconnecté à la CNV, donc merci déjà. Et est-ce que du coup vous pourriez commencer par vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Alors, dans mon lien à l'éducation, je suis formatrice certifiée en communication non violente et j'ai impulsé il y a 13 ans maintenant ce qui s'est appelé le projet CNV Éducation pour faire connaître la CNV dans le monde de l'éducation et qui a pris la forme en 2015 de l'association Déclic CNV et Éducation. Et donc, j'en suis cofondatrice et j'ai assuré la coordination aussi opérationnelle jusqu'à ce printemps. Et maintenant, je suis détachée de ça. Je garde bien sûr la coordination pédagogique, diverses choses. Je suis encore très, très investie dans l'association.
D'accord.
Et on œuvre, ou on en parlera tout à l'heure.
Ah bah oui, vous pouvez commencer déjà par présenter l'association.
D'accord. Et donc, Déclic œuvre pour faire connaître la communication non violente et aussi la déclinaison pour la gestion des conflits dans un groupe qui s'appelle les systèmes et cercles restauratifs. Pour les faire connaître à toute personne en charge d'éducation, aussi bien les parents que les professionnels de l'éducation.
D'accord.
Pour qu'ils soient, j'allais dire, équipés avec des moyens concrets de pouvoir vivre leurs belles intentions éducatives.
Oui, donc vous incluez les parents dans les formations. Vous êtes pas, vous vous concentrez pas seulement sur les professeurs des écoles, les éducateurs de jeunes enfants, en crèche et tout ça.
Donc voilà, les parents sont bienvenus au même titre que les professionnels dans nos formations qui sont dans notre programme de formation.
Oui. Et donc pour vous, j'imagine que la coéducation est importante.
Oui, notre rêve, c'est vraiment de pouvoir développer des projets. On avait commencé d'ailleurs une année, on avait gagné un appel à projet sur la prévention du harcèlement. Et on avait construit un projet qui touchait à la fois les équipes des écoles et aussi les parents. Et idéalement, on aurait voulu aussi toucher les animateurs des activités périscolaires et extrascolaires, mais on n'avait pas eu le financement pour le faire. Pour nous, c'est ça notre idéal, c'est que l'enfant, où qu'il aille, depuis sa famille, chez l'assistante maternelle ou la crèche, et puis après l'école et dans ses loisirs, il soit accompagné par des adultes qui ont cette qualité de conscience et ces moyens de l'accompagner vraiment avec respect. Et en plus, ça favorise aussi le lien entre tous ces éducateurs qui sont autour de lui.
D'accord. Et comment vous êtes arrivé sur le chemin de la communication non violente? Est-ce que c'était le hasard? Est-ce que c'était racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé sur ce chemin.
Alors, moi, avant la communication non violente, que j'ai découverte en 2002, j'avais découvert 11 ans plus tôt les outils de la communication de Jacques Salomé, qui sont appelés ensuite méthode ESPER. Voilà, et ça m'avait déjà beaucoup apporté sur, je dirais, ce que j'en avais tiré, c'était j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, qui est une grande clé que je partage dans mes formations. Je répète ça tout le temps, on est tellement coupé de ce qu'on ressent par notre éducation. Et j'avais déjà découvert que mes émotions m'appartiennent, le fait de parler de moi au lieu de parler sur l'autre. J'avais déjà découvert l'écoute empathique, être à l'écoute de l'autre. Et ça m'a déjà bien aidé personnellement et je m'en suis servie professionnellement. Et aussi, mon fils est né en 1995. J'avais eu déjà 4 ans pour intégrer tout ça et j'ai pu l'accueillir avec toute cette conscience-là. Et en 2002, j'ai découvert la communication non violente. En allant dans un rayon d'une librairie, au rayon psychologie, relations humaines, etc., je tombe sur le livre de Thomas dans son bourse, Essayez d'être gentil, soyez vrai. Je feuillette les pages et je dis, bon, bah alors, d'accord, prendre la responsabilité de ses émotions, je connais déjà. Parler en jeu, je connais déjà. Écouter l'autre, je connais déjà. Ah, mais il y a ce truc de besoin là, ça a l'air super intéressant. Voilà, et du coup, je me suis inscrite à la première formation que j'ai trouvée. Et j'ai vraiment. Ouais, j'adore cette approche. Je lui trouve à la fois une très grande simplicité théorique et un champ d'application immense. Et c'est à la fois combiné le changement personnel, mais au service d'un changement social. Voilà, donc je m'y retrouve complètement.
Et donc depuis 2002, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie, le fait de vous former en communication non violente?
Comme j'avais déjà toutes ces bases avant, je vois que quand j'écoute les autres, ce n'est pas le gros changement comme d'autres pour qui c'est la grande révélation. Voilà. Ça m'a apporté en tout cas une clé pour la compréhension de la violence, de tous les comportements non respectueux et de la violence. En communication non violente, on comprend que tout comportement est une tentative pour prendre soin de ses besoins, prendre soin de la vie en soi. Et surtout les comportements non respectueux et aussi, du coup, être plus à l'aise.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de déclic et des actions que vous menez en ce moment?
Alors, au sein de Déclic, déjà, notre vision, c'est que si un enfant est accompagné avec conscience et respect, il va pouvoir grandir en restant dans son intégrité. Et il va pouvoir s'épanouir pleinement, devenir un adulte épanoui et respectueux de lui-même, respectueux des autres et aussi respectueux de la vie, de la nature, de l'environnement. Et aussi conscient de ses talents, capable de les épanouir, de les mettre au service du monde. Bref, l'éducation, c'est central. Et pour le moment, nos habitudes dans la relation et dans la manière de vivre l'autorité, eh bien, des fois, elles ne sont pas vraiment au service de nos intentions et elles peuvent créer des blessures chez l'enfant qui, du coup, après, ça crée plein de blocages sur les apprentissages et aussi des problèmes relationnels. Et ça fait aussi, après, des adultes et une société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'offrir aux adultes les moyens de vivre leurs intentions et on œuvre pour qu'à terme, un jour, la CNV puisse faire partie de la formation initiale des professionnels de l'éducation. Que ce soit dans la petite enfance, dans le milieu scolaire, dans tous les secteurs de l'animation et dans l'éducation spécialisée, et qu'elle puisse être aussi accessible aux parents le plus tôt possible. Parce qu'à une époque, j'ai donné pas mal d'ateliers pour les parents, et puis il y avait des parents qui étaient des jeunes parents, enfin avec des bébés, et ils venaient tout de suite pour découvrir comment faire autrement que ce qu'ils avaient vécu enfant. Ils ne voulaient surtout pas reproduire ce qu'ils avaient vécu enfant. Mais il y avait aussi des parents qui avaient des pré-ados, ados, et ils venaient parce qu'ils ne géraient plus rien à la maison. Et c'était au secours, est-ce que vous pouvez m'aider? Et quand ils découvraient que déjà au bout de 2 séances, l'ambiance à la maison commençait à changer, ils traversaient une période super difficile de dire, mais mon Dieu, quel gâchis! Pourquoi je n'ai pas su ça avant? Bon, heureusement, ce n'est jamais trop tard. Et donc, je me suis dit, comment faire pour que tout le monde y ait accès? Et j'ai écrit un rêve en 2008, ce serait que quand on ferait sa déclaration de grossesse à la CAF, on recevrait une info nous disant être parent, c'est merveilleux et en même temps, c'est très exigeant et vous pouvez avoir du soutien, en particulier avec des ateliers communication. Et tout le monde aurait l'info et on aurait une aide comme l'aide pour l'accueil du jeune enfant qui serait indexée sur les revenus et comme ça, tout le monde y aurait accès, quels que soient les moyens financiers. Et pour moi, on ferait de la prévention. Voilà, on pourrait dire que le grand axe de déclic, c'est faire de la prévention en donnant aux adultes les moyens d'accompagner les enfants avec conscience. Et très concrètement, comment on fait? On a développé en premier le secteur milieu scolaire, à la fois parce que moi, c'était mon premier métier, j'ai été enseignante, j'étais professeure d'éducation physique en collège. Donc, je connais l'éducation nationale de l'intérieur et je sais que je n'ai rien eu dans ma formation sur la relation. Or, c'est un métier de relation, c'est la base. Et que tout ce que... Alors, j'étais déjà vraiment en recherche moi-même et j'essayais vraiment de vivre la relation selon mes convictions, mais ce n'était pas du tout évident de tâtonner par moi-même. Je me sentais souvent assez seule. Et après, quand j'ai découvert des outils à travers des formations, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça dans nos formations initiales? Ça nous changerait la vie. On ferait beaucoup mieux notre métier, on s'occuperait beaucoup mieux des jeunes et des enfants, tout le monde serait plus heureux. Et il y a des trucs tout simples à savoir. Voilà. Donc, on a commencé dans le milieu scolaire avec d'autres collègues qui venaient aussi du milieu scolaire. Et donc là, ça fait 13 ans qu'on avance. Et on avance à la fois sur le terrain avec les personnes qu'on appelle les pionniers d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont prêts à venir se former sur leur week-end et sur leurs vacances et en payant eux-mêmes leur formation, qui déjà, ça les aide eux et puis ça sert à tous les enfants dont ils s'occupent. Et ils commencent à être dans leur structure, dans leur établissement, des personnes ressources. Les collègues commencent à les voir. Mais comment tu fais? Voilà. Et des fois, du coup, il y a des projets qui démarrent dans les établissements. On nous demande d'intervenir dans les établissements. On a de plus en plus de demandes. Elles sont souvent un peu limitées par l'aspect financier parce que, encore en secondaire, les établissements arrivent un peu à trouver des budgets et en primaire, hélas, ils ne trouvent pas de budget et c'est fort dommage. Voilà, on a aussi commencé à développer ce qu'on a appelé une qualification d'intervenant déclic, justement pour pouvoir accompagner des personnes qui sont en poste à l'éducation nationale, qui se sont déjà formées par eux-mêmes à 15 jours de CNV, qui en ont déjà fait une intégration dans leur classe ou dans leur fonction, hein, parce qu'il y a des infirmières, des CPE, des chefs d'établissement, pendant au moins 2 ans. Et on les accompagne pour ensuite, on a une formation qui s'appelle « Être une personne ressource et inspirante dans sa structure », comment rayonner au-delà de sa fonction. Et ensuite, on les accompagne aussi pour être capable d'animer des sensibilisations pour leurs collègues, pour augmenter la diffusion au sein de l'éducation nationale. Donc ça, c'est tout un axe formation. Et puis aussi, on a de plus en plus de contacts avec des rectorats, des services formation des rectorats, avec des inspecteurs généraux. À une époque, on avait aussi travaillé avec la délégation ministérielle pour la prévention des violences en milieu scolaire. Voilà, on essaie d'avoir une action globale, à la fois sur le terrain et à la fois avec l'institution, et pour qu'à un moment, tout ça se rejoigne, quoi. Voilà.
Oui, oui. Oui, j'imagine, c'est un gros défi. Et par rapport, pour rebondir sur les jeunes parents, le fait de passer par la CAF pour qu'ils soient au courant de ces formations en communication, est-ce que c'est un projet qui est encore en cours? Si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore réussi à mettre ça en place?
Non, alors on ne l'a pas encore vraiment développé. Ça fait partie de nos axes. On ne peut pas tout faire en même temps.
Oui.
On a lancé il y a quelques années maintenant des ateliers déclic en famille. On avait lancé une année pilote en fait, parce que l'idée avant d'aller voir la CAF pour leur dire diffuser l'info, c'était important qu'on ait des personnes partout sur le territoire capables d'animer des ateliers. Donc on avait lancé une année pilote Et puis, on l'a arrêté. On est en stand-by pour le moment sur ce sujet parce qu'en fait, on avait fait toute une progression super intéressante avec un peu sur des formules. C'était 6 fois 3 heures plus 4 fois 3 heures. Et on pensait développer une qualification spécifique, mais en fait, on s'est rendu compte que... En fait, la CNV, ça s'enseigne plus par sa propre posture que par le contenu de ce qu'on enseigne. Voilà. Mmh. Et que si on faisait une qualification avec des personnes peu formées, elles allaient être centrées plus sur le contenu de l'atelier qu'on avait préparé et en n'ayant pas forcément la posture qu'on souhaitait qu'elles aient. Voilà. D'accord. C'est un peu notre talon d'Achille de la communication non violente. C'est très puissant. Et en même temps, ça demande vraiment du temps d'intégration pour soi et du coup aussi du temps d'intégration pour pouvoir vraiment la transmettre dans son essence.
Oui, c'est pas juste de la théorie, je vous récite la théorie, mais c'est être capable de le vivre pour soi déjà avant de le transmettre.
Voilà. Beaucoup de gens ont une vision superficielle de la communication non-violente. S'ils lisent des livres, souvent dans les livres, ben, on explique que comme un outil de communication avec 4 étapes. Ouais. Et là, n'importe qui un peu intelligent se dit « Oh, mais c'est hyper simple, j'ai compris, je vais l'expliquer à quelqu'un d'autre. » Sauf que c'est beaucoup plus profond que ça et d'intégrer cette profondeur, ça prend vraiment du temps. Et en fait, c'est cette qualité de posture qui va faire la transmission. Et que les personnes, elles sentent qu'elles sont pleinement accueillies. Ouais, c'est une qualité de relation qu'on perçoit, quoi. Je sais pas si ça
vous
parle.
Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Je suis en train de penser à une comparaison. Je sais pas si elle est valable ou pas. Mais souvent, quand on parle de valeurs à la maison, des valeurs, c'est pas juste j'aimerais, voilà, que tu partages tes jeux avec ton frère. J'ai cet exemple-là qui vient, mais c'est pas en disant à nos enfants j'aimerais que tu fasses ci ou j'aimerais que tu sois comme ça, mais en montrant l'exemple soi-même. C'est ça, ça revient à ça. Mm-hmm. Ça revient au même.
Oui, aussi ça, oui. Ou dans la posture de... Par exemple, si une personne dans l'atelier nous critique, admettons, être capable de accueillir pleinement la critique de la personne, aller entendre de quoi elle parle, la rejoindre, qu'elle se sente complètement comprise, et pas être dans... Oui, mais c'est moi. Comment ça permet ? Enfin, les réactions qu'on pourrait avoir habituellement ou d'être déstabilisé par ça.
Et vivre ça comme une attaque personnelle. D'accord. Oui, donc pour l'instant, si ce projet vous ne l'avez pas encore soumis à la CAF, c'est parce que vous êtes en recherche de ces personnes justement qui pourraient transmettre la CNV un peu partout en France.
Oui, alors on n'est pas en recherche active, on a mis en stand-by pour le moment cet axe-là. On y reviendra quand on aura de nouveau de la disponibilité pour réfléchir à comment vraiment déployer cet axe pour la parentalité, parce que c'est aussi un axe qui est important pour nous, quoi.
Oui, d'accord. Et sur le site, on peut voir que Déclic est soutenu par Thomas d'Azembourg, Catherine Guéguin, Christophe André et Laurent Gonel, donc des personnes connues et militantes. Je ne sais pas si militante est le bon mot, mais je me demande leur rôle dans l'association. Comment ces personnes soutiennent Déclic ?
Alors, elles ont des rôles variables. Thomas d'Azembourg, qui est donc notre président d'honneur, comment il nous soutient ? Par exemple, il va diffuser, vu qu'il a un réseau très très large, il va diffuser des choses qu'on fait quand on veut faire passer des messages, ou bien par exemple, l'année dernière, on a fait un appel à dons de fin d'année où tous les 15 jours, on publiait une petite vidéo de témoignage d'un acteur éducatif. Et donc, il a relayé ça, par exemple, en soutenant. Voilà, il nous facilite aussi des liens avec des contacts, ou bien... Quand il écrit un livre, moi je fais partie des personnes qui relisent le livre. Et puis, par exemple, dans son dernier livre, là, Notre façon d'être adulte fait-elle sens aux jeunes, aux enfants, je lui fais des suggestions avec des choses concrètes que nous on fait et qu'il a intégrées dans son livre, par exemple. Voilà, on collabore. Voilà. Avec Catherine Guéguin, c'est là où on a vraiment un partenariat très actif. Catherine fait partie du conseil scientifique de Déclic. Et on est vraiment en collaboration très proche. À la fois, elle va, grâce à ses livres, elle fait plein de conférences. Par exemple, elle a été beaucoup sollicitée à plein d'endroits dans l'éducation nationale pour faire des conférences. Et du coup, quand elle a des demandes après, eh bien, elle renvoie les gens vers nous. Déjà, je pourrais dire que depuis la sortie de ses livres, ça a énormément aidé, soutenu notre travail parce que ces livres ont apporté à l'éducation nationale la caution scientifique dont l'éducation nationale avait besoin pour faire confiance à ce que nous, on pouvait proposer. Voilà. Et comme à chaque fois dans ces conférences, ben, elle explique l'impact de nos manières d'être dans la relation sur le développement du cerveau de l'enfant. Et après, elle dit, il y a un moyen que je vous recommande, c'est la communication non violente. Donc, après, elle renvoie forcément vers nous et on collabore quand elle va, je me rappelle une fois, t'es sollicitée pour, je ne sais plus, dans un ministère, je ne suis plus sûre quel sujet, elle avait besoin d'infos de terrain, elle m'appelle pour avoir les infos du terrain, ou bien des fois, elle vient repasser des stages avec nous pour être au contact des acteurs éducatifs qui sont sur le terrain. Voilà, on soutient mutuellement. En fonction de là où on est. Et puis Christophe André et Laurent Gounelle, c'est plus. Ils ont accepté de. Si leurs photos et leur nom pouvaient soutenir notre cause, ils ont accepté de donner ça, mais en disant bien qu'ils n'avaient pas de disponibilité pour contribuer concrètement. Voilà.
D'accord. Bon, c'est des beaux partenariats que vous nous avez décrits. Et alors, je suis partie du principe que tous nos auditeurs connaissent la CNV, mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que vous pourriez, voilà, en quelques minutes, expliquer. Alors, je sais que ça se vit plus que ça ne s'explique, mais est-ce que vous pourriez quand même parler un peu de la CNV?
Donc, une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui est centrée, qui nous donne déjà des clés pour comprendre comment on fonctionne, nous les êtres humains. Et ce qui est au cœur, c'est la compréhension des besoins fondamentaux des êtres humains liés à la vie. Et moi, j'aime bien prendre l'image de la fleur, parce que je trouve que c'est très simple à comprendre. Une fleur a des besoins. Et quand ils sont satisfaits, la fleur va être épanouie. Et dès qu'elle a un besoin qui n'est pas bien satisfait, eh ben ça se voit. Elle fane, elle pourrit, voilà. Et moi, j'aime bien dire, nous sommes tous des belles fleurs. Et comme les fleurs, eh ben, on est des êtres vivants et on a aussi des besoins liés à la vie. Alors, on en a plus que la fleur. Hein. On a les mêmes, hein, boire, manger, avoir de la lumière, une température adaptée. Mais on en a bien plus. On se déplace. On est des êtres de relation, on a tous envie d'être assurés qu'on a une valeur, on a tous de l'énergie, on veut en faire quelque chose, contribuer au monde, on a tous des grandes aspirations comme la paix, la beauté, l'harmonie. Voilà. Une des clés, c'est de comprendre que ensuite nos émotions vont être les indicateurs, nos émotions et nos sensations corporelles vont être les indicateurs de comment va la vie en nous. Quand ce qui se passe nous fait du bien, enfin nourrit bien la vie en nous, et bien on le sent, on a des émotions, des sensations agréables. Et puis, quand quelque chose qui se passe ne nourrit pas un besoin important chez nous, et bien on le sent, et c'est là où on a des sensations, des émotions désagréables. Donc ça nous donne des clés pour comprendre nos émotions, et du coup aussi comprendre celles des autres, et aussi reprendre du pouvoir sur notre vie, parce que tant qu'on n'a pas la conscience de nos besoins, on croit que nos émotions, c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur ou grâce à ce qui se passe à l'extérieur. Et on dépend du coup de ce que font les autres. Voilà, et puis il y a un autre lien qui est de comprendre aussi que si nos besoins sont satisfaits ou pas, ça va avoir un impact sur notre ouverture dans la relation ou pas. Par exemple, si je suis écoutée, vraiment, et eh bien, ah, ça fait du bien, et je suis dans l'ouverture, et je suis pleine de gratitude envers les autres, et j'ai envie de collaborer. Alors que si je ne suis pas écoutée, ça fait ça se ferme et j'ai envie de réagir. Voilà. Et ensuite, ça va nous aider à décoder les émotions et les comportements et à entrer en relation avec les autres. Et pour cela, du coup, Marshall nous a donné quelques repères de pouvoir, et c'est là le processus qui est le plus connu, de pouvoir observer ce qui se passe. Admettons, je prends être écouté ou pas. Là, tu viens de me couper la parole et moi, là, je vois que je suis hyper contrariée parce que c'est important pour moi de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Voilà, donc j'ai nommé mon émotion et ce qui était important pour moi. Et après, je peux faire une demande pour avoir des chances que ce soit pris en compte. Est-ce que tu veux bien, là, attendre que j'ai fini complètement avant de me donner ton avis ? Et donc, ça permet d'exprimer, par exemple, ce qui ne nous convient pas en parlant de nous, au lieu de dire à l'autre, mais t'es vraiment mal poli. Ce qui va susciter plutôt de la réaction plutôt que de l'ouverture à nous écouter.
Le tu qui tue.
C'est ça. De la même manière, on va pouvoir exprimer aussi ce qui nous convient, et ça, c'est une émotion importante de la communication non violente, savoir voir et exprimer ce qui va bien, parce que ça nous donne de l'énergie. Et puis, je pense, dans la relation éducative, c'est très important, on n'y pense pas assez. Avec les meilleures intentions du monde, on estime que si l'enfant sait faire, si ça nous convient, bah, c'est très bien, on va mettre notre énergie pour lui apprendre à faire mieux ou plus. Sauf que l'enfant, du coup, il reçoit essentiellement... ce qui ne va pas, et il a l'impression qu'il est insuffisant. Donc, savoir partager aussi ce qui nous convient, et le partager en parlant de nous, et pas avec des jugements aussi. Au lieu de dire « Oh, t'es vraiment bien gentil !» Voilà. Pouvoir dire ben, « Là, quand j'ai vu que t'as arrêté ton jeu pour aller t'occuper de ton petit frère qui pleurait, écoute, j'ai été hyper touchée, parce que pour moi, c'est super important quand on peut prendre soin les uns des autres. Merci beaucoup !» Et ça a un impact différent. Et si on parle de nous, on permet à l'enfant de se construire des repères internes, alors que si on parle en termes de jugement, l'enfant se construit avec des repères externes. Il apprend à dépendre de notre regard. Et ça, c'est assez central pour l'estime de soi. Voilà, par exemple. Et ça va nous servir aussi pour écouter vraiment, aller... écouter pleinement quelqu'un, comprendre ce qu'il vit derrière ce qu'il dit. Alors ça, c'est toute la dimension dans la relation. Et pour moi, une partie qui n'est pas souvent assez nommée à mon goût, c'est que cette compréhension des besoins, en fait, c'est une grille de lecture pour tout le temps. C'est comment on prend en compte les besoins partout, dans les modes de fonctionnement des structures. Parce que quand les besoins ne sont pas bien pris en compte, eh bien, en fait, ça crée de la réaction et ça crée des conflits. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça.
Si.
Admettons, les enfants petits, ils ont besoin de bouger. Et si à l'école, eh ben, la forme pédagogique, c'est vous restez assis sur votre chaise et vous ne bougez pas, mais forcément, au bout d'un moment, l'enfant, il bouge sur sa chaise. Et puis, peut-être qu'il ne va pas trop bouger, mais il va embêter un peu son voisin. Et là, il va se faire réprimander. Bon, ça suffit, arrête de m'embêter. Et puis après, bah, il va bouger d'une autre manière. Il va se balancer sur sa chaise. Il va finir par tomber. Et puis, je te l'avais bien dit, mais t'es vraiment insupportable. OK, et on passe notre temps à gérer des conflits, mais parce que les besoins de base ne sont pas pris en compte. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est bien au-delà de la relation. D'accord. Et j'aime bien, je sais pas quel temps on a, je peux raconter une petite histoire
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Pour illustrer ça. Si, il se trouve que je vais aller à la réunion de parents de rentrée là, de mon aîné qui a 7 ans. Et puis j'ai une petite fille qui a 2 ans et personne pour la garder à cette heure-ci, donc je l'emmène avec moi à la réunion. Ok, elle est assise sur mes genoux. Bon, au bout de 10 minutes, elle commence à bouger. Et puis, elle continue à bouger, elle commence à faire du bruit et tout ça. Si je n'ai pas du tout la connaissance de la communication non violente, je vais être dans toutes les habitudes de « Ah, mais ça suffit, tiens-toi tranquille, ah, mais t'es vraiment insupportable, avec les comparaisons, regarde le petit garçon, lui, au moins, il est sage. Les menaces, si tu continues, tu regarderas pas ton dessin animé ce soir. » la culpabilisation, regarde, qu'est-ce que le maître va penser de nous et de ton frère, à cause de toi, ton frère va être mal vu, enfin bref, vous voyez l'arsenal qu'on est capable de sortir. Si j'ai découvert la communication non violente, j'ai appris à parler de moi au lieu de parler sur l'enfant, Et donc, je fais déjà le chemin d'aller voir où ça me touche, et ensuite, je vais pouvoir parler de moi en disant, là, quand tu bouges comme ça, et puis que tu commences à parler à haute voix, je suis gênée parce que j'ai envie vraiment que, de respecter ce temps de réunion et que le maître puisse dire ce qu'il a à dire tranquillement. Est-ce que tu veux bien rester tranquille? Voilà. Déjà, c'est plus doux. On va moins blesser l'enfant. Je peux avoir aussi compris que derrière tout comportement, en fait, c'est l'expression de besoin. Et donc là, je passe du côté de l'écoute empathique. Et donc là, je peux dire à ma petite fille, oui, je vois que tu commences à en avoir marre. Hein. C'est long hein, de rester comme ça, assise. Tu aimerais bien bouger. C'est ça? Oui. Et donc déjà, c'est un stade de plus, quoi. L'enfant se sent comprise. Donc ça, c'est les applications de la CNV dans la relation. Mais pour moi, la prise en compte des besoins, elle se fait en amont. C'est-à-dire qu'avant de partir à la réunion, j'ai conscience qu'une enfant de 2 ans, ça ne va pas rester assise sur mes genoux pendant 1 heure. Donc, je lui dis, petit sac à dos, on va aller à la réunion de la classe de ton frère, ça va durer 1 heure, prends plein de choses pour pouvoir t'occuper pendant 1 heure. Et puis, si je regarde ce qu'elle a pris, et si à mon goût, elle n'en a pas pris assez, je m'en mets un peu dans mon sac à moi. Et du coup, au cours de la réunion, au bout de 10 minutes, quand elle commence à bouger, je lui dis « Regarde, ouvre ton sac à dos. » Et je vais lui permettre de s'occuper pendant 1 heure. Donc, voilà, c'est pour montrer que la CNV, beaucoup de gens croient que c'est juste une manière de parler, mais pas du tout. C'est une conscience des besoins de chacun et comment on les prend en compte à chaque instant. Mmh. Voilà.
Merci pour cet exemple précis et qui parle bien, bien parlant. J'aurais bien aimé qu'on enchaîne un peu sur l'écoute empathique, ça tombe bien, vous en avez déjà un peu parlé. Comment on peut définir l'empathie?
Moi, je dirais que c'est la compétence d'aller rejoindre une personne dans ce qu'elle vit. D'aller, oui, c'est ça, la rejoindre pour... qu'elle se sente comprise. Moi, j'aime le mot qu'elle se sente rejointe, vraiment comprise dans ce qu'elle vit. Et en même temps, on reste à sa place. On ne va pas ressentir ce qu'elle ressent, elle.
Ce que vous voulez dire, c'est ne pas tomber dans le trou. Voilà, si la personne elle souffre vraiment, ne pas plonger avec elle, quoi.
Voilà, c'est sa souffrance. Après, des fois, je peux être plus ou moins touchée par sa souffrance. Et d'ailleurs, je vais observer ça. Il se peut qu'il y ait des moments où je puisse dire « je suis trop impactée, je ne peux pas continuer à t'écouter ». Voilà, mais je distingue bien.
Ouais, donc rejoindre la personne pour essayer de comprendre ce qu'elle vit. Hein.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et je pense à mon affiche sur le frigo, là, sur les obstacles à l'écoute empathique, les illustrations de... apprenti girafe, je crois. J'aime beaucoup ces illustrations, donc j'en ai mis plein le frigo. Et donc, il y a plusieurs obstacles à l'empathie. Est-ce que vous pourriez nous les citer?
Oui. Un trait classique qui va être de nier les émotions. Que la plupart des parents ont fait avec les meilleures intentions du monde tant qu'ils n'avaient pas conscience de tout ça. C'est notre enfant qui court à 2 ans, là, qui tombe, qui se relève en pleurant, mais qui ne saigne même pas, on va dire, et on lui dit « non, mais c'est rien ». Et ça, c'est terrible, ça s'appelle nier l'émotion. Et l'enfant, lui, il sent bien que soit il a mal, soit il a eu peur, mais il y a ce géant-là, qui est l'adulte, qui lui dit « Mais non, tu ne dois pas ressentir ça. » Donc, ça crée beaucoup de confusion. Il commence à quitter ses propres ressentis. Et nous, on peut imaginer, hein, en tant qu'adulte, vous racontez quelque chose qui vous touche à une amie, puis elle vous dit « Non, non, mais c'est rien. Tu ne devrais pas le prendre comme ça. » On voit bien comment ça nous fait juste « Ah !»
Je me rappelle quand j'en ai pris conscience il y a quelques années, quand un enfant tombait dans la cour, eh ben, je lui disais « Tu as eu peur ou tu as eu mal ?» Ou les deux. Et ça remplace le « c'est rien », quoi.
C'est ça. Et c'est incroyable quand l'enfant est entendu, quand ils sont petits, juste accueillir l'émotion, ça suffit. Ils nous regardent avec les grands yeux, chut, et hop, il repart jouer, quoi. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Hein. Après, il y a tout ce qui va être jugé ou critiqué. mais je t'avais dit de ne pas courir. Tu n'écoutes jamais. Tu es vraiment insupportable. Voilà. Alors que c'est, encore une fois, tout ce qu'on fait, ça part de bonnes intentions. Hein, pour les personnes qui écoutent, si vous vous reconnaissez dans des choses que je dis là ou même que j'ai pu dire avant, vraiment, reliez-vous à vos intentions. Et puis, vous avez fait avec ce que vous connaissiez. Et si ce que j'apporte, ça peut vous servir, utilisez votre énergie pour demain, pas pour vous en vouloir d'hier.
Ouais.
Voilà, il va y avoir le jugement. Donc là, c'était sur la personne, mais ça peut être sur l'autre personne dans l'histoire. Admettons, mon enfant, il arrive de l'école en me disant « Ah, Maxime, il m'a encore embêté, j'en ai marre. Ah oui, ah, il est vraiment insupportable. D'ailleurs, je t'interdis de jouer avec lui. » Et c'est pas ça qu'il veut, l'enfant. Il veut être entendu dans ce qu'il vit. Il veut pas... Et je dis l'enfant, hein, mais c'est exactement la même chose avec des adultes. Il y a aussi une chose qu'on fait beaucoup avec les enfants, c'est ce qu'on appelle l'empathie pour le tiers absent, c'est-à-dire pour l'autre personne. Là, par exemple, Maxime, il m'a encore embêté. Oui, mais écoute, je t'explique. Maxime, en ce moment, il y a ses parents qui divorcent, donc c'est compliqué pour lui, il faut que tu sois gentil avec lui. Vous voyez l'effet que ça fait? Et on fait très souvent ça, par exemple, à la maison, avec nos enfants, justement. Si j'ai un plus grand et un plus petit, la classique du petit qui veut toujours faire comme le grand, qui vient dans la chambre, qui prend les affaires, le grand qui arrive. « Ouais, elle est encore entrée dans ma chambre, elle a pris mon livre, elle a fait un dessin dessus, j'en ai marre, je veux qu'on la jette. » Écoute, tu es grand, tu as 7 ans, elle a 2 ans, sois raisonnable. Voilà. Mais là, il a juste envie de l'étrangler.
Ouais, il ne se sent pas du tout écouté, en fait.
Et oui, voilà. C'est la personne qui nous parle, qui a besoin d'écoute.
Ouais.
Voilà. Et on peut se voir là-dedans. Après, il y a ramener à soi. Bon, avec les enfants, moins, mais voilà, une amie nous raconte quelque chose. Et puis, à la peine finie, on dit « Ah oui, mais c'est comme moi aussi !» Et puis, on raconte notre histoire, quoi. Donc, ça part aussi souvent d'une bonne intention pour montrer qu'on comprend. Je te comprends, regarde, moi aussi. Mais souvent, des fois non, hein, c'est juste « Ah, ça me fait penser à mon histoire » et puis du coup, je prends toute la place.
Ouais.
Voilà, et la personne qui parle, elle a envie d'être écoutée. Les conseils, et ça, on fait beaucoup avec nos enfants. On croit qu'on sait pour eux. Donc, ils ont à peine fini de nous raconter leurs difficultés. Bon, tu sais ce que tu devrais faire ? Voilà.
Ouais.
Et ça, c'est un grand apport de l'écoute empathique avec la communication non violente pour moi. C'est que ça va vraiment servir nos intentions de permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui, dans ses ressources et de développer son autonomie. Je pense que la plupart des parents et des éducateurs ont envie de contribuer à ça. Mais quand, dès que l'enfant nous amène un problème, on lui propose une solution, on n'est pas en accord avec ces intentions-là. Et avec l'écoute empathique, eh bien, on va écouter. Je reprends l'histoire de Maxime. Ah oui, donc j'écoute son émotion. Ouais, t'as l'air d'en avoir marre. Oui, j'en ai marre. Moi, j'aimerais bien qu'on joue, mais pas que comme ça, il m'embête. Ah, ok, donc t'en as marre. Toi, ce que t'aurais envie, c'est vraiment de pouvoir t'amuser avec lui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Du coup, est-ce que t'as une idée de qu'est-ce que tu pourrais faire pouvoir jouer? Et on met la balle dans son camp. On a confiance que les enfants, ils ont des ressources extraordinaires. Ils ont plein d'idées auxquelles nous, on pense pas. Et si jamais il en a pas, à ce moment-là, on va lui dire, bah, moi, j'ai une idée. Est-ce que tu veux que je te la dise? On lui donne encore la balle de son côté. Voilà.
Oui, c'est une opportunité pour lui de chercher des solutions.
Oui, oui.
D'accord. Et alors maintenant qu'on vous avez cité tous les obstacles à l'écoute empathique, quand on veut accompagner les enfants en classe pour qu'ils développent de l'empathie, comment on peut faire?
Alors, je dirais la première chose, c'est l'incarner soi-même.
Encore et encore, on y revient.
Et oui, Les enfants apprennent à communiquer juste en reproduisant la manière dont on communique avec eux.
Donc si, et si on communique, si on envoie balader notre collègue ou l'aide maternelle ou un autre adulte dans l'école, c'est pas l'idéal alors.
Eh ben voilà, c'est ça. Ils vont s'inspirer de ce qu'ils voient. Une fois, j'ai lu une phrase que j'ai adorée, c'est « On a beau apprendre aux enfants les bonnes manières, il n'y a rien à faire, ils continuent à faire comme nous.
» Oui, c'est drôle.
Oui. Voilà. Donc, être nous-mêmes empathiques, en particulier avec eux.
Oui,
ouais. Hein, ils arrivent, ils nous disent quelque chose. Par exemple, on dit « Bon, alors sortez vos cahiers, on va faire les maths. » Il y en a un qui dit « Oh non, pas les maths, pas encore ça. » Là, on pourrait dire « Non, mais stop, tu ne discutes pas, c'est comme ça. » Ou bien « Oh, tu es encore en train de râler. » Ou alors, petit accueil empathique, je me relis à « C'est quoi son émotion derrière ces mots ?» Ben, il n'est pas motivé. Ça ne lui plaît pas. Donc, juste, j'accueille avec ça. « Ah, tu n'as pas l'air très motivé pour les maths. Hein. » « Ah non, j'aime pas ça. J'y arrive jamais. »« Ah, tu es découragé ?» Et tu voudrais pouvoir réussir. Voilà. Ça prend pas longtemps, mais ça change tout.
Et tous les autres entendent.
Exactement. Tous les autres voient comment on fait. Tous les autres ressentent dans leur corps ce que ça fait.
Ouais.
Voilà. Ou de la même manière, si on lui avait dit ouais, t'es toujours en train de râler, maintenant ça suffit. Tous les autres ressentent dans leur corps aussi ce que ça fait, ça.
Ouais. Oui, c'est important ce que vous dites. Ma fille, pas se plaignait, mais me rapportait souvent quand un enfant se faisait disputer, j'avais l'impression qu'elle le vivait comme si c'était elle. Hein.
Ouais. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y aurait eu des études faites qui montrent qu'en fait, ce sont les enfants spectateurs qui gardent le plus gros impact. Parce qu'en fait, ils ont été spectateurs impuissants.
Ah oui.
Pouvoir faire quelque chose, alors que l'enfant qui a vécu le truc, ben lui, il l'a vécu dans son corps, et puis bon, ok, c'est pas grave, mais c'est passé, alors que les autres, finalement, gardent un impact plus important. C'est intéressant, hein.
Ah oui, oui, oui.
De se rendre compte de ça. Donc, pour développer, il y a ça, déjà, comment nous, on est dedans, pour la gestion des conflits, aussi, comment on va pouvoir gérer les conflits par la médiation. Hein, une fois qu'on a compris que tout comportement et l'expression d'un besoin, ben en fait, dans une dispute, au lieu de se dire dans notre version classique, on croit qu'il y en a un qui a tort et il y en a un qui a raison, donc on cherche. Bon, alors, comment ça s'est passé? Racontez-moi. Alors, nanana. Et on veut trouver celui qui a commencé. Parce que comme ça, on aura le responsable, donc le coupable, et donc on va pouvoir le sermonner, voire le punir. Bon, mais en fait, on a un peu du mal, hein. Vous avez remarqué, ces filles. Non, mais oui, mais j'ai fait ça, mais avant, il avait fait ça. Oui, mais avant, tu avais fait ça. Donc, on ne s'en sort jamais. Et avec la communication non violente, on n'est pas du tout dans ce paradigme qui a tort, qui a raison. On est dans, nous avons deux êtres humains en face de nous. Ils sont tous les deux en souffrance. Et ils ont tous les deux des besoins. Et on va les écouter chacun. Et donc, on va leur dire, je vois que ça va pas là. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe pour chacun. Donc, est-ce que toi, tu veux bien me dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et j'écoute les faits. Et là, je vais écouter l'autre, parce que je ne vais pas rester trop longtemps avec un, sinon l'autre a l'impression que je l'oublie. Après, j'écoute l'autre, et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je reformule, j'avais oublié de dire. Comme ça, il se sent vraiment entendu dans les faits. Des fois, ils n'ont même pas vécu les faits pareils, mais ce n'est pas grave. On ne cherche pas à avoir le truc objectif. Et après, on revient, ok, alors quand il s'est passé ça, du coup, t'avais l'air pas content, enfin, on l'écoute et on va accueillir son émotion et on va accueillir de quoi ça parle d'important pour lui. Oui, il m'a pris, je sais pas quoi, mes cartes dans mon cartable à la récré, je les ai pas trouvées dans mon cartable et je l'ai vu à la récré, il était en train de jouer avec. Non, mais c'est un voleur et tout. Alors, on entend tous ces mots-là, mais on ne s'arrête pas. Et nous, on entend que derrière, ouais, t'es vraiment furieux parce que tu veux du respect pour tes affaires. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je veux qu'on me demande avant de prendre mes affaires. Ok, c'est important pour toi qu'on te demande avant de prendre tes affaires. Oui, et il y a quelque chose qui fait dans le corps, qui se pose. Et on fait pareil avec l'autre. Et donc, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais moi, je lui avais dit que je voulais jouer avec lui à la récré d'avant et il n'a pas voulu jouer avec moi. Du coup, voilà, c'est comme ça j'ai pris les cartes, comme ça au moins je les avais. Ah, ok, donc toi, tu étais furieux et vraiment ouais, déçu, même triste, hein, de parce que c'est important pour toi aussi de pouvoir participer et jouer. Oui, c'est ça. Et c'est le seul moyen que tu as trouvé, du coup, pour faire ça. Oui. Et donc ils vivent ça. Et après, on les invite à s'écouter mutuellement. On refait une petite synthèse sur donc toi, ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir participer et jouer. Et toi, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir du respect pour tes affaires et qu'on te demande avant de se servir. Est-ce que c'est ça? Ok. Est-ce que toi, tu peux dire ce que tu as compris qu'il a vécu? On les invite à se reformuler dans les deux sens. Voilà. Nous, on a fait toute la traduction avant. On a permis que ça s'apaise. Et là, ils peuvent s'écouter mutuellement. Et là, c'est incroyable, c'est très fort en fait. Quand ils nomment, oui, toi, t'étais pas content parce que j'avais pas voulu que tu joues avec nous et toi, tu voudrais pouvoir jouer aussi avec nous. Voilà. Et c'est pour ça que tu as pris les cartes. Et puis toi, t'étais pas content quand j'ai pris les cartes parce que c'est important pour toi qu'on respecte tes affaires. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution? Et encore une fois, on les met à rechercher des solutions. Et en fait, c'est extraordinaire parce que, à la différence de nos habitudes où on va sermonner, punir, moraliser et qui créent de la fermeture, le fait d'être écouté comme ça, ça se détend dans le corps, il y a de l'ouverture et en fait, il y a la créativité de la vie qui est là et trouve des idées, quoi. De qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble?
Et tout le processus que vous venez de nous décrire, c'est ce que vous appelez les cercles restauratifs?
Alors non, là c'était plutôt la médiation. Là c'était une médiation entre deux enfants en utilisant l'approche de la communication non violente. Je répondrai à qu'est-ce que c'est les cercles après peut-être. Je vais juste finir sur comment on apprend l'empathie aux enfants. Ben là ils apprennent l'empathie en la vivant. Et il y a une enseignante de CP qui m'avait témoigné. Après avoir participé à mes ateliers, elle avait mis en place des choses dans sa classe sur exprimer ses émotions, comment on arrive le matin, comment on arrive après la récréation, s'assurer que tout le monde est disponible, ou est-ce que, parce que souvent après la récré, il y en a qui ont un petit nœud émotionnel, et du coup, elle les aidait à dire pour être disponible, etc. Et elle s'était mise à s'occuper des conflits comme ça avec la médiation. Et elle disait qu'à Pâques, elle voyait les enfants dans la cour s'occuper de conflits entre deux copains avec la médiation. Mais elle ne leur a jamais appris. Elle n'a pas fait des séances de apprendre à faire la médiation, quoi. Elle l'a juste vécu avec eux. Voilà, et nous, c'est vraiment notre axe. On n'a rien à apprendre aux enfants. C'est nous, les adultes, qui avons à apprendre tout ça. Et les enfants, ils apprennent naturellement.
Et être capable, dans l'exemple que vous avez cité, de trouver la bonne émotion, de trouver le bon besoin, ça demande beaucoup quand même d'entraînement. Ça, c'est pas évident hein, au départ hein, de tomber juste. Bon, après, on peut se tromper, mais voilà, si on veut essayer de tomber juste, c'est pas évident.
Oui, c'est vrai que c'est tout un apprentissage, hein, puisqu'on n'a pas été éduqués là-dedans. Donc, voilà, c'est là où c'est le sens des formations, hein, de pratiquer, pratiquer. Et c'est là où le cercle restauratif, c'est une autre manière de pouvoir traiter les conflits dans un groupe. Et où là, la personne qui va aider. On va pas l'appeler médiateur, là, il se trouve que ça va s'appeler un facilitateur, et il n'a pas besoin d'avoir de compétences, justement, de savoir repérer les émotions et les besoins. Il y a un processus qui aide les personnes à s'écouter. Là, on dirait, alors, même on peut l'utiliser quand ils sont deux, hein, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors, il dit, oui, je ne suis pas content, j'ai vu que tu avais pris mes cartes, t'es qu'un égoïste. Non, enfin, bref, un voleur, je sais pas quoi. Il dit comme ça. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Et donc, oui, il n'est pas content parce que j'ai pris ses cartes sans lui demander et il m'a traité de voleur. Ok. Est-ce que toi c'est ça que tu voulais qu'il entende? Oui. Mais pas tout à fait. Je sais que c'est pas un voleur. Je veux juste dire que là, je suis pas d'accord, quoi. s'il veut, il me demande avant. Ok, et toi, qu'est-ce que tu l'as entendu dire maintenant? Il dit que je suis pas un voleur en vrai, mais que c'est juste que là, il n'était pas content du tout et qu'il veut que je lui demande avant. Est-ce que c'est ça que tu voulais qu'il entende? Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas maintenant. Et maintenant, on va à l'autre. Voilà. Et en fait, il y a ce processus qui fait que on va permettre que les choses se disent et soient entendues. Et on n'a pas besoin de compétences particulières dans la connaissance des sentiments et besoins.
D'accord. On sent que ça fait redescendre, hein, ça fait redescendre la pression au fur et à mesure dans les allers-retours dans la conversation. D'accord. Et alors, une petite question bête. Non, il n'y a jamais de question bête, mais pratique. Moi, quand depuis quelques années, je me forme aussi à la CNV, et quand je veux m'inscrire, je passe par le site cnvformation.fr. Donc, quelle est la différence entre ce site, ce catalogue de formation et Déclic?
Alors, sur Déclic, vous allez trouver les formations spécifiques éducation. Et ces formations-là, elles sont aussi sur le site cnvformation.fr, puisqu'elles sont données dans notre catalogue de formation, en tout cas pour le moment. Ce ne sont que des formateurs, formatrices certifiées en CNV qui animent les formations éducation. Et donc, en tant que formateur et formatrice certifiée, ils mettent aussi leurs formations sur le site cnvformation.fr qui, on va dire, c'est le grand site de tous les stages animés en France par tous les formateurs et formatrices certifiées. Et Déclic, c'est juste la partie éducation.
D'accord. Mais vous proposez les trois premiers modules comme sur le site cnvformation.fr, les trois modules de base?
Oui, alors sous une forme légèrement différente. Hein, les trois modules de base, on peut les faire sous la forme module 1, 2, 3, tout public, ou bien avec des entrées spécifiques. Et donc j'ai des collègues qui font une entrée spécifique, par exemple, pour les organisations, ou pour plutôt les métiers de la santé ou pour les métiers de la relation d'aide, et nous on fait une entrée spécifique pour l'éducation, donc ça s'appelle les bases de la CNV au service de l'éducation.
D'accord.
Donc ce sont les mêmes bases, sauf que déjà le public qui va être là, tout le monde a un lien avec l'éducation, soit à titre parental ou professionnel, donc tout le monde on fait du lien avec quelque chose qu'on a en commun. Et les exemples vont être liés à l'éducation. Et aussi, moi, dans ma manière de l'amener, je vais vraiment l'amener avec un côté éducation. Je ne vais pas l'amener pareil que si je fais un module 1, 2, 3 tout public, par exemple.
Oui, d'accord.
Et puis, je vais aborder par exemple, c'est quoi mes intentions éducatives, toute la notion de l'estime de soi, la punition, c'est quoi nos intentions et c'est quoi les effets. Enfin, voilà, des choses que je n'aborde pas aussi dans les modules 1, 2, 3 tout public.
D'accord, c'est bon à savoir. Moi, c'était des modules de base tout public, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'association avec un petit flyer, je crois. Voilà, et les deux derniers que j'ai faits, là, c'était sur la colère, enfin, l'estime de soi déjà, et après la colère. Voilà.
Et donc, on commence aussi, on commence aussi à développer, par exemple, la colère, ça existe en approfondissement tout public. Et là, j'ai une collègue, Anne Charbonnel, qui l'a développée, vraiment, la colère dans la relation éducative. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Comment gérer notre propre colère, comment accueillir aussi les colères des enfants. Mais c'est surtout pour la nôtre. Et elle a aussi développé un autre stage en tout public, ça s'appelle le savoir dire non. Et dans la relation éducative, c'est savoir exprimer sa limite, avec authenticité. Mais voilà, ça, c'est aussi un sujet super important parce que tant qu'on ne connaissait pas les besoins des enfants, c'est bon, c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai raison. Après, quand on commence à connaître les besoins des enfants, il faut écouter les besoins des enfants. Ah oui, alors je les écoute. Et j'en arrive à oublier les miens et à plus savoir, mais comment je fais pour dire non, pour poser ma limite. Du coup, c'est très, très important de savoir comment poser sa limite tout en étant dans cette qualité de relation. Et c'est un stage que je recommande, toutes les personnes qui y vont sont très très contentes.
Quand on revient de 2 jours de stage de CNV, on est différent, je trouve. Hein. Ça fait tellement de bien. Merci beaucoup, Catherine. Si vous êtes d'accord, on va terminer par les trois questions habituelles. Oui. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller aux auditeurs?
Oui, j'ai droit à un ou je peux faire deux?
Allez, plusieurs. Personne n'arrive à se limiter à un en ce moment.
Ah, d'accord. Alors, j'ai une collègue qui a coécrit avec une autre amie qui est comédienne et qui s'est formée à la CNV 50 activités bienveillantes pour découvrir la communication non violente. Voilà, c'est des activités à faire pour les adultes avec les enfants de 6 à 9 ans. Hein, ça explique bien dedans que l'idée, ce n'est pas de former les enfants, mais c'est de vivre des choses ensemble. Voilà, c'est chez Larousse. Pour les personnes du milieu scolaire, dans le livre « L'impasse de la punition à l'école » qui a été dirigé par Eric Barbieux, moi, j'ai écrit un chapitre qui est sur la CNV et les systèmes et cercles restauratifs, ah, avec des témoignages. Voilà.
Je ne le connaissais pas, celui-là.
Et puis, un dernier, c'est mon coup de cœur en ce moment, un livre pour les enfants qui s'appelle « Tu es comme tu es ». C'est Père Castor.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci pour ces trois références. Et est-ce qu'il y a une citation qui vous plaît particulièrement sur notre sujet?
Oui. Une citation de Saint-Exupéry qui dit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants ». Mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et c'était mon invitation à régulièrement se poser la question, enfin à se rappeler qu'on a été des enfants et à se rappeler ce qu'on vit quand on est enfant. Et du coup, en tant qu'adulte, se dire, si moi j'étais l'enfant là, comment j'aimerais que l'adulte réagisse avec moi?
Oui.
Et déjà ça donne des bonnes clés.
C'est énorme, c'est énorme. Et on va terminer soit par un coup de cœur, soit par un coup de gueule.
Tu peux faire les deux ou...
Oui.
Alors, le coup de cœur, c'est pour tous les personnels du milieu scolaire qui viennent se former sur leur week-end, sur leurs vacances, en payant leur formation, en faisant nos cycles de base éducation, c'est entre 6 et 7 jours et demi. Puis il y en a qui viennent après dans Vivre la semaine dans sa classe, il y en a qui continuent. C'est un investissement temps et argent énorme. Et moi, je voudrais vraiment honorer ça, qu'ils n'attendent pas que ce soit l'institution qui leur apporte ça. Et pour le moment, ils prennent les moyens. Et j'en ai encore plus pris la mesure. L'autre jour, j'intervenais dans une collectivité locale où là, c'était sur leur temps de travail financé par la collectivité. Et quand ils me disaient « Ah, tu travailles dans l'éducation, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils financent ?» Et quand je racontais ça, je voyais mon interlocuteur qui était bouche bée. « Ah bon, ils font ça ?» Voilà, donc je voudrais vraiment honorer l'engagement de plein de personnels de l'éducation nationale aujourd'hui qui voient bien comment ça a du sens pour mieux vivre leur fonction, quoi. Voilà. Donc ça, c'est coup de cœur et coup de gueule. C'est autour du harcèlement. Hier, c'était la journée de lutte contre le harcèlement. Il y a ça tous les ans. Et à chaque fois, je souffre parce qu'on est encore beaucoup dans lutter contre. Là, il y a un programme qui est mis en place là, avec beaucoup de moyens, le programme phare. Donc, il y a une partie qui s'appelle prévention, mais c'est encore beaucoup prévention sur le fait qu'on va, mettre des personnes, justement, qui seront les référents harcèlement dans l'établissement, on va former des enfants à être les référents harcèlement, on va alerter, enfin bref.
On préférerait des référents CNV que des référents harcèlement. Hein.
Mais c'est ça, parce qu'en plus, on ferait de la prévention, parce que nous, avec notre compréhension, le harcèlement est une stratégie maladroite et tragique au service de besoins. Et on n'a jamais vu quelqu'un d'heureux avoir envie d'embêter les autres. Donc, on ferait mieux de mettre tout cet argent-là et tous ces moyens-là pour former tous les personnels à cette conscience et à cette qualité relationnelle qui fait que chaque enfant va se sentir accueilli, compris, que ses besoins vont être pris en compte. Il n'aura pas besoin de compenser en étant dans la domination sur les autres. Et voilà, et donc, et aussi ouvrir des espaces d'écoute, tu vois, les gens qui se forment avec nous, après, donner de la place à la relation dans le temps de classe, c'est super important. Et ça développe un vivre ensemble. Quand on fait des comment ça va et qu'on entend vraiment comment l'autre va, en fait, on grandit en humanité ensemble. et on prend soin les autres, les uns des autres. Et il n'y a plus de harcèlement. Ou bien, s'il y en a qui se vivent dans d'autres, avec d'autres enfants de l'école, ils se disent très rapidement parce qu'il y a un espace de confiance. On n'arrive pas à des situations... Voilà. Donc, pour nous, c'est très... Cette journée, c'est assez souffrant parce qu'on sait qu'on pourrait tellement faire de la prévention et que pour le moment, bah, je sais pas, il n'y a pas cette conscience-là et on aimerait mieux que les moyens soient mis dans la formation des enseignants. Voilà.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Catherine. J'ai envie de vous partager comment je me sens. Là, je vais essayer. Je me sens joyeuse parce que ça fait du bien de réentendre tout ça. Enfin, d'entendre, oui, je peux dire de réentendre tout ça. Et je suis joyeuse de me dire que que tous les auditeurs vont pouvoir aussi entendre, en profiter. Et j'espère avancer, enfin j'espère peut-être avancer dans leur chemin de la CNV.
Voilà, et ben moi je suis très joyeuse parce que j'adore partager. Voilà, et puis j'adore aussi contribuer au bien-être de chacun. Et je sais que cette approche, ça nous soutient tellement dans cette qualité de vie à laquelle on aspire. Voilà.
Merci.
Avec plaisir.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !